Ah, vous l'attendiez, la bande originale de l'été, hein? Eh ben la voilà. Avec ce matin, Kev Adams, Vincent Elbaz, Pierre Ninet, Charlotte Gainsbourg, Vladimir Cosma, Christian Clavier, Alex Lutz et la bande au grand complet. Le meilleur de la BO, c'est parti! Excellent été à vous, tous les amis!
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
La promo, c'est un plaisir ou un boulot? Comment vous
ça peut être... Oh non, ça peut être un plaisir. C'est, ça dépend du contexte, mais là, ce jour-là, c'était moins un plaisir, même si je trouvais ça très drôle au début de l'émission, par exemple. Ouais. Et puis à un moment donné, ça m'a moins fait rire, mais. Mais une interview, c'est une discussion avec quelqu'un quand même. C'est une rencontre, même s'il y a du public qui écoute.
Ouais, l'intérêt des deux n'est pas toujours le même.
Je prends plus
l'intérêt
de plaisir maintenant.
L'intérêt des deux n'est pas le même. Vous venez pour parler d'un produit. En l'occurrence, que ce soit un film, un livre, une pièce de théâtre, un DVD, une œuvre.
Un produit.
Pardon.
Moi,
mais sur par là, c'est que le sens promotionnel.
Une œuvre, ouais.
On vient le vendre.
Le sens promotionnel, voilà, va avec, comme disait Simone Signoret, il faut faire briller astiquer les cuivres. Voilà, donc c'est pour reprendre cette expression-là.
Oui.
Donc vous venez avec un but précis, c'est-à-dire attirer le chaland et le plus grand nombre en disant venez, regardez, j'assume, je le porte et je vous demande de m'écouter. Et les émissions de télévision, de radio, je nous mets dans le bain, ont un cadre plus ou moins rigide, plus ou moins confortable de spectacle, de contenu et de concept pour ne pas trahir le téléspectateur ou l'auditeur.
Oui.
Donc on va pas forcément dans le même sens, bien que ici, nous, on ait le sentiment d'aller dans votre sens, mais j'imagine que des personnes sont sorties de ce studio en disant...
Mais il y a furieux.
J'ai pas pu dire ce que j'allais dire.
Non, je pense que là, par exemple, ici, on a un cadre pour discuter du film.
On a
un peu plus de temps. Non, mais ça dépend des émissions.
Vous pouvez aller dans une émission et ne pas parler du film.
Il y a des émissions que je vais plus faire parce que je sais qu'on peut pas parler du film du tout.
Oui, je voulais en arriver là, cette idée que tout d'un coup la promo, quand on vous la propose ou on vous l'impose, je sais pas exactement comment ça se passe pour les comédiens.
Faut pas imposer un acteur, c'est pas comme aux États-Unis où on signe des contrats dans tous les sens.
Ici
c'est un devoir moral envers le film, le réalisateur, son propre travail.
C'est un engagement.
Il y a des partenariats, je sais pas qui a produit le
partenariats,
vous êtes obligé d'y aller. Non mais si une chaîne a donné de l'argent pour le film, je pense que vous aurez du mal à refuser d'aller faire la promotion.
Non, pas du tout. Parce que il y a la junket.
Tu parles pas comme ça, t'es gentil.
Si j'ai pas.
Le seul truc qui.
Ok, faire la promo. Oui,
le seul truc qui est à peu près obligatoire, c'est ce qu'on appelle la junket.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est toute une série d'interviews que tu vas faire
10
avec. T'as 10 minutes par média. Mais en réalité, n'importe quel acteur, il y a beaucoup d'acteurs d'ailleurs, et moi je trouve que c'est une erreur, et je dénonce ça en France, mais vraiment fort. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne font que la junket et qui ne défendent absolument pas le reste du film. Et après, tu as le choix. Soit tu y vas pas. Moi, j'ai fait le choix d'aller partout et partout où j'ai envie d'aller pour défendre mes films.
Parce que quand vous êtes pas heureux du film.
Non, mais je suis toujours heureux de mon film.
Ah, oui, mais alors,
je suis toujours heureux de défendre ce que j'ai fait.
Même quand t'es pas heureux du média, c'est-à-dire que t'acceptes tout,
même quand
si
je suis pas heureux du média. Et j'ai regretté parfois de venir. Mais en fait, pour moi, ça fait partie du job. Aujourd'hui, c'est trop facile de dire. Et encore une fois, je vais pas à l'encontre de Vincent, parce que Vincent, pour le coup, il a une vision très intelligente par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il dit moi, je suis d'accord pour aller faire la promo. Mais je veux qu'on parle du film, justement.
Ouais.
Je veux pas qu'on fasse des trucs où je suis là juste pour être là, juste pour montrer ma tronche. Et ça, je l'entends très très bien. Mais moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, effectivement, aux États-Unis, il y a cette obligation-là. Et je trouve qu'elle est normale. Quand tu fais un film et que t'es payé en tant qu'acteur, je trouve que dans ce qu'ils te donnent comme argent, il y a une somme qui est inclue pour aller défendre ce film auprès du public. Mais c'est normal, parce qu'aujourd'hui, il y a...
Mais ça sous-tend ça, Kavadam. J'entends complètement cette idée de fidélité.
Je termine juste. Aujourd'hui, il y a 20 films qui sortent par semaine. Si tu vas chercher des comédiens entre guillemets connus, puisqu'aujourd'hui connu ou bankable ne veut plus rien dire, mais si tu vas chercher des comédiens comme ça, t'as envie que ces gens aillent défendre ton film et dans les médias et en promo et ainsi de suite.
Mais on peut aussi envie que les acteurs aillent défendre des films qu'ils ont sincèrement envie de défendre.
Mais alors
parce
après,
que c'est pas la même chose.
Après, c'est une question.
D'aller faire de la promo
et
avec
d'accord.
Le cœur ou sans le cœur.
Mais après, c'est une question. Là, le choix se fait pas au moment de la promo, il se fait avant.
Tu
choisis le film que t'as envie de faire.
Non, parce qu'on peut très bien tourner un film et se rendre compte. On va en parler tout à l'heure.
Que le résultat plaise pas ou qu'on est. Bon, oui, d'accord.
Tu peux signer sur un scénario et voir le film à la sortie, te dire pardon, mais c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais.
Personnellement,
globalement, ils sont sincères quand ils vont faire la promo.
Personnellement, j'appelle ça quitter la barque en route. C'est trop facile, ça. Ça, c'est trop facile de faire un film. Il y a des discussions possibles avec les gens.
Pourquoi je suis montré du doigt par
ça, ça t'est arrivé ou pas?
Ça vous est arrivé.
Ça vous, pardon, vous,
ouais, ouais,
vous deux et Vincent.
De
ne
pas toujours être fier de faire la promo d'un film.
Non, c'est une question. Ça m'est jamais arrivé.
J'ai pas la réponse.
Non, je réfléchis, mais non, ça m'est jamais arrivé de ne pas faire la promo d'un film.
De pas aimer le film dans lequel
vous êtes
tourné.
Bien sûr. Ah oui, d'aller faire la promo. Oui, évidemment.
La bande originale, le best-of. Sur France Inter.
Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux.
Michel Delisle qui a donc copié Patrick Bruel quelques 50 ans avant.
C'est fort.
Mon amant de Saint-Jean.
Comme Barbara, tout ça quoi.
Mon amant de Saint-Jean, vous écoutiez vraiment ce mon amant. Ça correspond pour vous à La Petite Voleuse?
Oui, c'est parce que ça, il l'a mis dans le film, je pense. Mais je me plongeais vraiment dans cette époque en fait, et je m'habillais même chez moi, je m'habillais encore en années 40,
ouais.
Donc ça m'a beaucoup beaucoup marqué.
Et c'est une période aussi charnière dans votre jeune métier d'actrice, c'est que vous comprenez sur ce tournage de Claude Miller que acteur c'est du boulot.
Oui, j'ai arrêté de, il me semble que c'est sur ce film que j'ai arrêté de vouloir uniquement faire plaisir au metteur en scène. Et je me faisais plaisir à moi-même.
Et comment on découvre ça? Comment on passe de ce rapport à l'autre, enfantin quelque part, et à d'individu un peu plus affirmé?
J'ai vu ça avec Pavel sur le tournage de La Promesse, en fait. J'ai vu qu'il était beaucoup plus jeune que moi à mes débuts. Moi, j'avais 12 ans, il en avait 8. Mais c'est un... Il faisait tout pour faire plaisir au metteur en scène.
Ouais.
Il avait une complicité avec Eric, et enfin une admiration pour lui, et c'était, voilà, il faisait pas du tout, il avait pas de conscience d'acteur, même si sans doute il fera ça plus tard.
C'est le même rapport,
avait...
c'est le même rapport que Nina et Romain, c'était tout pour faire plaisir et ne pas décevoir,
oui, c'est
entre
vrai.
Guillemets,
c'est
cette autorité ou cette admiration.
Mais c'était
supérieure.
Assez fascinant à voir, hein, sur le tournage, c'était assez fascinant parce que Eric aussi était, et fou d'amour pour lui, il était, c'était son premier spectateur, donc d'être témoin de ça, c'était quand même assez particulier.
C'est un rapport de Pygmalion et de Muse aussi, c'est un rapport de...
Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que sur l'effronté, moi je m'en foutais des scènes. J'avais envie d'aller rigoler avec l'équipe, de monter un travelling.
Ouais, mais là, vous avez été un moteur dans l'effronté.
C'est vrai,
non, mais
ça m'amusait plus.
Vous étiez aussi un moteur dans le personnage, vous avez apporté des idées. Claude Miller.
Dans l'effronté?
Ouais.
Non. Enfin, je sais pas, non. Je sais pas, c'était plus je faisais ça un peu par-dessus la jambe, ça m'amusait, mais je passe, c'était une colonie de vacances.
Pierre Niney, à ce moment-là, vous écoutiez Cat Stevens.
Oh baby, baby, it's a wild
world. Avec des paroles qui prennent une notification maintenant. Celle d'un papa à son enfant. Et là, vous voyez où, vous voyez comment, en écoutant Cat Stevens?
La vérité, Nagui, c'est que je dois vous avouer que j'ai triché à votre jeu.
Ah bon?
La BO, ouais, pour la première fois.
Vous n'écoutiez pas Cat Stevens?
Mes parents n'écoutaient pas Cat Stevens, parce qu'on m'a demandé année 89, donc c'est l'année de ma naissance, les premières années. Et mes parents n'écoutaient pas, ils écoutaient plutôt du Bob Dylan. Mais aujourd'hui, j'avais très envie d'écouter du Cat Stevens avec vous, parce que j'adore cette chanson.
Romain Gary
peut-être
a
parce que,
sur vous.
Ouais, complètement. Et j'adore cette chanson, et peut-être parce que je suis tout nouveau
tout
papa. Ouais, peut-être, ça a une résonance.
Tout nouveau, mais c'est vrai que Wild World, c'est ce que dit un papa à son enfant, est très très forte cette chanson.
Et on continue à mentir ou pas sur donc sur la bio, Pierre?
Ah ouais. Tout est faux.
Vous êtes donc né,
vous êtes champion du monde de Formule 1.
Vous avez
ça c'est vrai.
Absolument. Et vous avez été un peu baigné dans le cinéma, dans votre père enseignait le cinéma documentaire à la FEMIS. Donc c'est des références assez pointues, c'est du Chris Marker. Alors, j'imagine c'est pas que ça, du Hitchcock. Et vous dites que vous avez eu envie d'être acteur en voyant François Morel.
En partie, ouais, bien sûr. Bah, j'avais la chance d'aller au théâtre assez tôt et j'adorais ça. J'adorais aller voir des pièces. Et puis, les Deschiens, les spectacles de Deschamps et donc notamment avec François Morel. Et ouais, j'ai des grands souvenirs de très très jeunes spectateurs avec lui.
En 2001-2003, Charlotte, vous écoutiez.
Thank you.
pont avec votre dernier album dont je parlais tout à l'heure, Tellement je l'aime. Le pont, c'est McCartney.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce titre-là. C'est que ça, il y a Brad Meldo qui était une grande rencontre, qui a fait la musique du film de Ma femme est une actrice. J'ai vu donc Yvan pour la première fois metteur en scène et aux commandes justement de la musique de son film. J'ai vu Brad Meldo jouer et composer pour. Sur les scènes, c'était tout un. C'est Yvan qui a fait le film et moi j'ai pu baigner dedans, baigner dans les coulisses et c'était assez magique. Et après, voilà, c'est une adaptation de Junk de McCartney.
Et comment on fait pour surprendre son compagnon qui est le réalisateur d'un film où on incarne son propre rôle?
C'était dur de le surprendre.
Vous aviez plus peur de le décevoir que l'inverse ?
J'avais très peur de le décevoir parce que justement il me connaît trop. Donc il voit quand c'est faux et voilà. Le deuxième, j'ai pu avoir un petit peu plus de distance et de plaisir de jeu. Et le troisième encore un peu plus.
Vivement la suite.
Ouais.
Pierre, dans ces années-là, vous écoutiez I Am.
C'est pas vrai. La nuit où on assassine.
Ça c'est vrai.
Encore une tombe à fleurir. Un ange part dans un dernier soupir. Un fait divers dans une ruelle. Un cri court, personne n'entend l'appel. Encore une tombe à fleurir. Un ange part dans un dernier soupir. Un fait divers dans une ruelle. Un cri court, personne n'entend l'appel.
Et alors là, à l'adolescence, vous écoutiez I Am.
Ça c'est totalement 100% vrai pour le coup. C'est ma chambre de, là je revois ma chambre d'adolescence.
Genre quoi, des posters des...
Ouais, des posters, un poster de Tony Parker, de l'autre côté un poster de Alyssa Milano.
Ah,
ouais.
Ah oui, c'est vrai.
Et puis I Am que je connais par cœur, l'école du micro d'argent, cet album
bien,
je crois tendu par mes grandes sœurs potentiellement, mais ouais j'adore, c'est un des albums cultes pour moi.
Et tout de suite tendu aussi en direction du théâtre, vous avez compris très tôt en fait que c'était ça qui vous animait et que le temps libre c'était aller voir des films, lire des textes, c'était ça.
Bah, c'était aussi Alyssa Milano et Tony Parker, donc il n'y avait pas que ça. Il y avait beaucoup de basket déjà, non, j'avais mon âge, mais en même temps c'est vrai que j'ai découvert peu à peu les grands textes de théâtre et que ça m'a fait quelque chose et j'avais l'impression que j'avais beaucoup d'énergie et la mettre au service de textes, de personnages, de raconter des histoires en fait. C'est vrai que ça m'arrivait d'être dans ma chambre et de lire des textes et voilà, mais je savais pas trop encore ce que j'allais en faire de tout ça. Il y a eu du Molière forcément parce que il y avait un lien avec le rap d'ailleurs. J'ai toujours eu l'impression que ça avait cette force-là, qu'il y avait un lien entre les deux sur l'alexandrin de Molière en particulier, le phrasé bien sûr, la manière de le scander, cette rythmique qui est imparable chez Molière et qui est imparable chez les bons rappeurs. Et puis Phèdre aussi que j'ai eu la chance de jouer plus tard à la Comédie Française, donc j'avais vraiment et la pression et en même temps j'étais super heureux parce que je me rappelais de ces souvenirs de chambre d'adolescent où je lisais déjà des bouts de Phèdre et d'Hippolyte.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Faut préciser quand même que votre prénom, Vladimir Cosma, vous le tenez de Vladimir d'Ormesson, qui était le père de Jean d'Ormesson, qui était ambassadeur.
Voilà, c'est assez français. Curieux. Mmh. C'est que mon père, Théodore Cosma, avait toujours un grand amour pour la France. Il avait été élevé en France, il a fait le lycée à Janson de Sailly, il a passé toute sa vie et en fait il voulait rester là. Il a dû revenir en Roumanie, la guerre a éclaté et il a dû rester là. Moi je suis né en Roumanie et puis comme souvenir et comme de la France, pour lui l'ambassadeur de la Roumanie en France c'était à l'époque Vladimir d'Ormesson, donc il m'a donné le prénom Vladimir par amour pour la France. Alors ça fait un peu bizarre parce que
c'est le paradoxe.
Chaque fois Vladimir on me prend pour un russe, chaque fois que je vais dans un pays étranger on me parle russe parce que je pense
vous
que
je m'appelle Vladimir parce que je suis français.
Voilà.
Et en 1980 vous écoutiez Billy Joel. Cette musique va peut-être avoir de l'influence sur votre travail, Leïla.
Et oui, parce que dans cette année...
1980,
là, j'ai fait éternuer. Vous composez la Boum, Vladimir Cosma.
Elle en pleure parce que c'est des bons souvenirs pour Leïla.
Non, mais est-ce que... Alors, justement, cette Boum, la voici, évidemment. Et les deux musiques se répondent ?
Au niveau du... Il y a deux facteurs qui les unissent, si vous voulez. D'abord, c'est deux slow. Et puis, le titre. Quand le film a été fait, la production, l'idée, c'était d'acheter les musiques. Billy Joel, des Rolling Stones...
L'idée était de contacter Billy Joel en disant...
Ils ont contacté.
Est-ce qu'on peut prendre votre musique pour faire le film La Boum ?
Voilà, et puis ça coûtait tellement cher, plus cher que le film, c'était un tout petit film... Que, à leur grand regret, ils m'ont appelé pour faire la musique du film, un film où la musique avait une importance capitale. Et il s'agit de faire des chansons en anglais et tout ça, ce que je n'avais pas fait avant.
Et vous avez pris un parfait inconnu aussi pour chanter.
J'ai voulu prendre des inconnus parce que je voulais trouver la voix du film, la voix du personnage. Oui. Je ne voulais pas prendre Johnny Hallyday, il vivait à cette époque-là, mais je voulais quelqu'un que le public ne dise pas « Tiens, c'est des
musiciens ».
Et j'ai cherché un chanteur en plus, de préférence qui n'ait pas trop de voix et qui ne soit
pas
connu.
Ouais.
Parce que ma musique était très classique de forme et je ne voulais pas un crooner qui tout d'un coup surjoue et surinterprète.
D'accord. Donc vous voulez que ce soit plutôt romantique et doux.
Une voix un peu comme un instrument.
D'accord.
Vous qui êtes musicienne, je crois, un peu.
Très peu.
Tout ce qu'on demande, elle qu'on paye. Elle peut être chanteuse, elle peut être.
Acrobate.
Donc, je cherche pendant 6 mois, j'ai cherché mon chanteur. Et la seule chose, je disais au parolier, voilà, il faudrait trouver un titre de chanson. Mmh. Essayez de trouver quelque chose qui finit avec un i, comme ça, comme Honesty. Et puis, quand j'écris ma musique. Je voulais que ce titre de la chanson ne vienne pas au début du thème, mais ça vient au moment le plus important de la musique, le plus émotionnel, si vous voulez. Sur cette montée, Reality.
En 2007, vous composez votre premier opéra et vous écoutiez. Gershwin,
ça va faire.
Pour Gimbès.
Et en 2007, vous écrivez votre premier opéra, donc Marius et Fanny, d'après Pagnol,
voilà.
À l'Opéra de Marseille, avec Roberto Alagna, quand même.
Et Angela Giorgio.
Oui, absolument.
Qui était son partenaire.
C'était un doux rêve. Vous avez attendu longtemps, Vladimir Cosma, pour vous lancer dans cette aventure de l'opéra.
Ben oui, j'ai attendu longtemps parce que, si vous voulez, c'est le hasard de la vie. J'ai jamais été catalogué ou entré dans un système faire de la musique classique ou faire de la musique de jazz ou faire des chansons. Chaque fois que j'ai abordé un genre, je l'ai aussitôt quitté pour aller vers un autre. Donc j'ai pas cherché à faire de l'opéra. Il se fait que j'ai rencontré l'univers de Pagnol avec les films dont j'ai fait la musique, La Lueur de mon père, Château de ma mère, La femme du boulanger. Après, j'ai fait la trilogie marseillaise. Et puis, un jour, j'étais à une projection de film et Madame Pagnol, qui vivait, Jacqueline Pagnol, m'a transmis un message par son agent littéraire qui a dit « Vous savez que Marcel aimait beaucoup votre musique et si un jour vous avez envie d'écrire une musique sur un texte de Pagnol, etc., on vous donnera l'autorisation de le faire. » Et comme en même temps, on m'a appelé pour faire un événement à Marseille à l'occasion de l'ouverture du musée et tout ça, bon, j'ai proposé Marseille et Fanny, un peu, qui me semblait un sujet un peu comme Porgy and Bess ou Roméo et Juliette, deux personnages populaires mais très humains et qui conviennent, me semble-t-il, à ma musique.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
C'est quand même pas mal la bande originale, mais ce sera encore mieux après. George Michael, Last Christmas.
Give it to someone.
C'était Last Christmas avec George Michael. Et ça, ça fait du bien. Ah, c'est ce que j'aurais aimé vous dire. De la suite, malheureusement, bah, c'est l'heure d'Alison Wheeler.
Oui!
À toutes. Et vous savez quoi, j'ai un truc incroyable à vous annoncer. Tenez-vous bien, nous sommes la veille du solstice d'hiver. Truc de fou. Mais qu'est-ce que c'est qu'un solstice d'hiver? Le solstice d'hiver, ça représente le jour le plus court de l'année, donc la nuit la plus longue et un litre de salive pour Dominique Besnéard. Le solstice. Et c'est aussi le jour où les sorcières féministes boivent leurs règles déguisées en femmes dans l'esprit d'Anna Finkielkraut. Et qui dit nuit la plus longue dit night of the night, the sex on the beach all night long with Lionel fucking Richie. Car demain, c'est aussi et surtout la journée mondiale de l'orgasme. Et croyez-moi, cette année, il n'y a pas rien que je reparte de la fête foraine sans ma grosse peluche, si vous voyez ce que je veux dire. L'orgasme. Ah, oh, ce tremblement.
C'est demain l'orgasme.
Oui, 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 exactement. Okay. Ce tremblement, que dis-je, cette contraction des muscles qui n'est pas toujours facile à reconnaître, car oui, je l'admets, faute d'éducation sexuelle, j'ai quitté beaucoup d'hommes et de femmes prenant mes orgasmes pour des débuts de gastro. Mais assez parlé de ma vie délicieuse et charnelle. Pour info, cette journée mondiale de l'orgasme, c'est très sérieux. Elle a été créée à l'initiative de deux hippies pacifistes, convaincus qu'un orgasme simultané dans la nuit de demain créerait une vague de paix collective. L'orgasme comme arme de paix, quelle belle idée, alors que le paix pendant l'orgasme, lui, peut déclencher des petites incompréhensions. Attention. Et puis un orgasme pour Noël, quel beau cadeau. Enfin, sauf pour les enfants, vaut mieux rester sur des Legos, c'est une valeur sûre. C'est vrai que l'orgasme procure un effet immédiat de bonheur, c'est même prouvé scientifiquement. Hein. Après l'orgasme, t'as l'impression d'être Zidane en 98, t'as envie d'embrasser tout le monde sur le petit crâne, là, ouvrir la porte à un témoin de Jéhovah, lui faire regarder W9, ramasser le caca d'un chien que tu connais pas dans la rue. Bref, le monde n'est plus que bonheur et tolérance. Et ça peut que retentir positivement sur la planète. Mais bien sûr, tout ça n'est pas si simple. Je vous vois arriver avec vos petites questions. Mason, comment avoir un orgasme? Avez-vous les coordonnées GPS du clitoris de ma femme? Mon mari est précoce, dois-je simuler avant qu'il me touche? Comment grimper au rideau quand on a des stores? Vladimir Kosma est-il célibre? Oh, et ça va, on n'est pas sur Skyrock, là! Tout ce que je sais, les gars, c'est que l'orgasme masculin et féminin sont très différents. Oui, l'orgasme féminin serait 8 à 10 fois plus intense. Mais comme les hommes gagnent 15% de salaire en plus, j'ai envie de dire qu'on se recoupe comme on peut. Et puis, les façons de les stimuler sont différentes. L'orgasme peut être favorisé par différents, même plusieurs facteurs, même si perso je préfère les pompiers. Car oui, beaucoup d'hommes l'ignorent, mais les femmes ont un organe méconnu. Ce petit bout de chair situé juste au-dessus du vagin, dans la boîte crânienne qu'on appelle le cerveau. Alors que pour les hommes, un simple abonnement à Beansport suffit pour obtenir un orgasme 5 étoiles. Et comme de stimulation à simulation, il n'y a qu'un pas, je vais vous le dire une bonne fois pour toutes. Non, la simulation n'est pas réservée aux femmes, puisque 30% des hommes avouent avoir déjà simulé pendant l'amour. Alors pour vous aider, voici mes mots audio. Là par exemple, on peut entendre un homme en plein orgasme sincère.
Oh!
Merci Albert. Et là voici un orgasme masculin simulé.
Je reste en absence.
Allez, me remerciez pas. Voilà, en tout cas, seul ou à plusieurs, avec un vibro ou un appareil à raclette, je vous souhaite une excellente journée mondiale de l'orgasme demain. Faites-le pour vous ou pour la planète.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Bonjour Christian Clavier.
Bonjour mademoiselle.
Ah non, c'est pas mademoiselle.
Bonjour madame.
Non plus, non, vous devez pas être bien réveillé, c'est monsieur. Voilà.
Voyez là, c'est l'exemple frappant quoi. J'ai voulu faire de l'humour, bah, c'est tombé complètement à plat.
Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci d'être venu nous rendre visite dans la bande originale.
Oh, j'ai eu de pêche, les gars. Wouh bon,
ça, c'est cool, vous venez nous parler de Momo. Vous jouez avec Catherine Froid et surtout Sébastien Thierry, qu'on voit peu au cinéma.
Ah oui, tu comprends, il joue comme un pied, il a pas un jeu fin. C'est très difficile de jouer avec un type qui est moins fort que toi. Hein.
D'accord, ça balance.
Je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout cela, n'est-ce pas vous? Vous n'en avez rien à foutre.
Ah non, pas du tout. Si vous les balancez sur vos petits camarades, n'hésitez pas.
Hein. Vous êtes un sadique. Vous adorez voir souffrir les gens. Hein.
Ah non plus. C'est pas ce que je voulais dire. Bien au contraire, ici, nous ne sommes qu'amour. Déjà, tout à l'heure, je vous ai vu, vous m'avez fait de la peine. Vous avez accroché une marche de l'escalier. Et voilà.
J'ai pas accroché, j'ai ripé. Parle pas de ce que tu connais pas.
Pardon, Christian, pardon. Ça va, vous êtes pas fait mal au moins.
Ça ne vous regarde pas et foutez-moi la paix, vous.
Ok, très bien. C'est cool parce que ça commençait bien cette émission. Et puis, bon, bah.
Je pense qu'on en a peu rien à se dire. Bon, bah. Allez, salut, bonnes vacances.
Bah non, bah vous êtes venu rester quand même. On vous adore. Vous connaissez l'équipe peut-être?
Qu'est-ce que c'est que ça?
De quoi?
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, mais c'est Daniel Morin. Bah, vous allez voir, il est très gentil.
Il a une énorme gourmette en or, il veut pas la balancer, merde.
Oui, c'est une petite particularité. Encore, il a pas mis son portefeuille avec la chaînette, ni son chapeau du Buffalo Grill. Mais vous allez voir, c'est une gourmette, c'est pas bien grave.
C'est
pas...
Alors, si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Hein.
Bah, c'est vrai que Daniel, il fait souvent des blagues qui durent longtemps. La blague de la calvitie, voilà, elle est longue. Mais bon, vous avez l'habitude avec Michel Blanc et Gérard Jugnot.
Mais pourquoi vous êtes venu ici? Je ne fais pas l'hypothèque.
Alors, oui, il y a un petit côté grizzly, mais vous pouvez pas dire ça, Christian. Il est très sympa. Et puis, c'est pas de sa faute.
Hein. Il n'a pas fait exprès, mais elle est belle.
Oui, voilà. Bon, en tout cas, merci d'être venu ici. En plus, vous êtes le seul de l'équipe à avoir accepté de venir dans la bande originale. Je sais que c'est pas évident. En tout cas, bienvenue à France Inter. Et vous verrez, nous ne sommes qu'amour.
Simplement quelqu'un de seul, qui a besoin des autres et qui est venu chercher ici un peu de réconfort. Comment vous êtes incapable de me le donner parce que vous êtes coincé dans votre univers moral de merde. Vous ne voyez rien. Vous êtes myope des yeux, myope du cœur et myope du cul.
Et ben, on s'achètera des lunettes.
Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
On entendait un groupe et c'est aussi la naissance d'une troupe.
C'est la naissance d'une troupe avec Thierry Lhermitte, Michel Blanc et Gérard Jugnot, ainsi que vous, Christian Clavier.
Il y avait aussi de Marianne Chazelle, Josiane Balasco,
c'est vrai. Nous,
Bruno Moineau.
Et pour monter une première pièce, vous vous souvenez ce que c'était comme pièce?
Si c'était au Splendisté, il y avait...
Moi j'ai la concierge, une histoire de concierge qui tombait dans l'escalier.
Ça, c'est la concierge tombait dans l'escalier, c'est, on était encore au lycée,
ouais,
et c'était Michel Blanc qui avait écrit cette pièce.
Il n'y avait pas le graphique de...
On jouait des personnages qui avaient à peu près 55 ans, on avait 16 ans.
Le graphique de Boscoff? Non, c'était Romain, ça c'était Romain Bouteille.
Ça c'était Romain Bouteille, c'était pas nous.
Et vous, apparemment, déjà au lycée, vous vous connaissiez tous au lycée, Gérard Jugnot dit de vous que vous faisiez un tabac en imitant le prof d'allemand, que c'était une de vos grandes spécialités.
Ça ne nous a pas tellement servi pour nos études. Mais on s'est beaucoup amusé.
On peut vivre la résistance, c'était pas mal.
Et très bien rencontré. Oui, on s'est rencontré, on avait 13 ans avec Gérard. C'est donc très bien.
En classe à chaque fois.
Oui, parce que lui s'est étranglé au fond de la classe avec une cravate. À l'époque, on mettait des cravates quand on allait à l'école. Et donc, il s'est étranglé au fond de la classe.
C'est un uniforme. Tout le monde avait les mêmes vêtements.
Non, on avait. Non.
Il y avait des codes.
Au primaire, on avait des blouses. Non, après, on n'avait pas d'uniforme. Gérard était très mal habillé, comme il l'est toujours. c'était tout à fait bien.
C'est sa patte. Oui.
Et vous avez traversé ensemble mai 68. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez fait pendant mai 68
Nous avons dirigé une commission poésie au lycée Pasteur et on a énormément défilé du côté du lycée de filles qui était à Saint-James, donc on a énormément ri. Ouais. Parce qu'évidemment, il y avait un truc dans 68 qui était un moment dans lequel on a beaucoup de souvenirs, mais les gens se sont terriblement pris au sérieux. C'est comment on est en France. Hein. Il y avait toujours des types avec le cheveu un peu gras en fond d'amphithéâtre et une parka verte qui levait la tête en faisant... Et le rapport avec les masses. Donc on était un petit peu surpris de ce type de discours-là. Donc c'était des gens d'un coup, on avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, certains peut-être avoir 21 ans, c'était d'un sérieux absolument considérable, même si 68 avait quelque chose de joyeux.
Voilà. Et vous, la commission en poésie, c'était un truc bidon pour s'amuser, quoi?
Non, pour aller draguer, Saint-James, c'était un repère de filles.
C'était un repère de filles, mais c'était pas un truc bidon. D'abord, on aimait beaucoup la poésie,
oui,
vraiment, sincèrement, donc c'était pas du tout bidon.
Et ça marche pour draguer?
Pas tellement.
C'est dommage.
On était 8. Non, ils allaient. Non, les gens. Après, on allait un peu voir comment se passaient les manifs et tout ça.
1989, là, vous écoutiez les Beatles.
Vous écoutez bien avant. Hein. C'est très, très, très important.
Et la musique est importante pour vous?
Oui, la musique est très
importante,
très importante dans les films et très présente, oui. Alors avec des évolutions. Moi, oui.
Dans la vie aussi?
Dans la vie, oui.
C'est-à-dire, vous l'écoutez en fonction de la situation, de votre humeur? Est-ce que pour un rôle, par exemple, vous écoutez une musique particulière? Est-ce que vous, pour apprendre, est-ce que vous...
Pour écrire parfois, mais pas pour jouer.
Et ça va de la musique classique au rock,
ça,
à
ça
la
a
pop.
Été différent, ça dépend des périodes. Aujourd'hui, oui, beaucoup la musique classique parce que ça vous rend plus serein,
Ça dépend laquelle, hein. Wagner, ça peut vous énerver.
Oui, d'accord, mais enfin, en général, vous avez quelque chose qui vous ouvre énormément l'esprit et ça, c'est bien.
Et donc, dans cette année 89, c'est la sortie de Mes meilleurs copains, de Jean-Marie Poiré.
Génial.
Film que vous avez coproduit.
Oui, avec Christian Fechner, très grand producteur. à qui je ne rendrai jamais suffisamment hommage. C'est un très bon ami et quelqu'un qui en effet pas pu faire de la résistance. C'est des producteurs qui, c'était une époque où les producteurs prenaient énormément de risques.
Ouais. Et portaient vraiment des projets.
Oui, et ils décidaient seuls. Mmh. Aujourd'hui, on s'est truffé de commissions. Dans une commission, vous avez une table comme celle-là. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit non ou je ne suis pas sûr, tout le monde se range à l'avis du négatif. Là, c'était des gens qui, Claude Berry, Christian Fechner, Alain Poiret, etc. Tous ces gens
qui prenaient des risques personnels sur leur denier. Aujourd'hui, les producteurs, je ne crois pas prendre beaucoup de risques en disant ça, attendent que le montage soit fait avec les diffuseurs.
C'est en train de bouger beaucoup, parce que les diffuseurs sont plus compliqués, ça bouge, ça change.
Et là, mes meilleurs copains, ça avait marché ou pas
vous? Pas du tout, c'est un très gros flop.
Et vous êtes dit quoi? Il faut
C'était un flop,
mes
meilleurs copains?
C'est fou.
J'ai l'impression que c'est culte, moi.
Il est extraordinaire.
Le film est devenu culte après, mais ça a fait 300 000 entrées France. Ouais. On est complètement passé à côté. On s'est retrouvé avec Jean-Marie sur les Champs-Élysées à boire une bière à minuit. On s'est dit, faut qu'on fasse autre chose. Voilà, il faut qu'on part.
Faut faire un autre film.
Faut faire quelque chose de différent. Faut partir. Les hauts et les bas de ce métier. C'est comme ça. C'est une chose à assumer qui est importante.
Et qu'est-ce qui a fait qu'en 89, vous décidiez d'être coproducteur? Vous dites, de se lancer dans cette aventure?
Parce que j'ai été coproducteur du Père Noël est une ordure. Ouais. J'ai toujours été un entrepreneur. C'est une chose que m'avait appris mon agent de l'époque, Jean Ulivi. C'était l'idée d'Armédia, le grand agent de l'époque. C'est-à-dire, les artistes doivent prendre en main leur destin. Car c'est très important artistiquement parlant. Et vous risquez votre travail. On n'était pas payé du tout. Mais si jamais ça fonctionne, ça vous permettra de mieux gagner votre vie et après de faire d'autres films. Donc c'était quelque chose de très important à cette époque-là. Sachez ce que c'est. Que le cinéma, c'est un artisanat, c'est éventuellement parfois de l'art, mais c'est aussi une industrie. Donc c'est bien de se frotter à toutes les dimensions du métier, sinon vous comprenez pas bien ce qui se passe.
Ce raisonnement est moins d'actualité, j'ai la sensation.
C'est-à-dire que comme on a affaire à des groupes, ils veulent absolument pas partager.
D'accord. Donc c'est plus compliqué de s'imposer pour dire moi je fais partie de la
compro. Aujourd'hui c'est eux, c'est tout. C'est la méthode américaine est arrivée partout. Donc ils vous payent plus ou moins bien, puis c'est terminé. Vous n'avez plus rien à voir.
Et vous arrivez à insister pour continuer à avoir un peu.
Moi je risque toujours dans les films. Je m'implique, je risque toujours. Je risque toujours de l'argent, je perds, je gagne, mais je risque toujours. Je pense que c'est comme ça que je fonctionne.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Chut, pause. C'est l'heure de la musique. Miss Smith. Moudoïde.
parti avec lui. Je regrette.
Moudoïd, Miss Miss dans le meilleur de la bande originale sur France Inter. J'ai dit meilleur et pourtant c'est au tour de Tanguy Pastureau.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Griezmann, c'est ce footeux qui a tout. Il est jeune, il est beau, il est riche. Sa vie est un long kiff tranquille. Souvent, moi, je me dis, tiens, j'aimerais bien être Nagui pour avoir ce lâcher-prise qui fait que j'oserais tous les genres d'habits. Mais Griezmann, lui, est le seul à pouvoir se dire, oh, ce que je suis bien en moi. Phrase que celui où des gens très très souples peuvent prononcer à bon escient. Heureusement, le web, cette masse hostile et jalouse, lui a trouvé un défaut. Oui. Il est raciste. Et hier, il s'en est pris plein la lampe. Même François Gabart, si dans l'océan, une sole avait sauté très haut et lui avait claqué la face, n'aurait pas subi le même choc. Début de l'histoire, Griezmann est fan des Harlem Globetrotters, une équipe de basket américaine qui fait des shows délirants. Il jongle avec 4 ballons sur un doigt. S'il y en a un qui perd un bras, il jongle avec le nez. Moi, je monte à 25 de tension rien qu'en les regardant. Ensuite, j'ai besoin de 4 heures d'Arlette Chabot sur LCI pour redescendre. Donc ce week-end, il fait une fête et se dit, je vais me déguiser en Harlem Globetrotter.
Années 80, oui.
Or, dans l'équipe, il n'y a que des Noirs. Hein, le showbiz, c'est comme ça. Il y a New Order, des Blancs qui jouent pour des Blancs. Lenny Kravitz, un Noir qui joue pour des Blancs. Frédéric François, un Blanc qui joue pour des dames rouges qui hurlent le cheveu Fredo. Et les Harlem Globetrotter, des Noirs qui jouent pour tout le monde. Donc Griezmann se dit, pour leur ressembler, je vais me grimer en Noir. Sinon, je serai juste un Blond en maillot de basket et personne va capter. De même, si Youssou N'Dour veut se déguiser en Yann Borg et qui prend juste une raquette, on va lui dire, je sais pas, Yannick Noah. Il se noircit donc la peau, enfile une perruque afro, clic-clac, le petit oiseau prend une photo et il poste tout ça sur les réseaux sociaux. Ces endroits virtuels où quand vous écrivez bonjour, on vous répond, va crever toi et ta mère sur le parking du Lidl. Et là, paf, ça démarre. On accuse Grisou de faire du blackface, un truc américain des années 20. Autant dire que lui, qui n'a jamais fini le club des 5 à la plage, cherche Dagobert au fond d'une crique, est largué. Hein, le blackface, c'était les blancs dans les films qui se déguisaient en noir pour mieux se moquer d'eux. Hein, c'était affreux, cruel, à gerber. Seulement Grisou, je vous parie les droits d'auteur de Daniel Morin, ce pactole connu sous le nom de Nouveau Graal, qui ne sait pas ce que c'est. C'est donc maladroit, parce ouais. qu'être noir n'est pas un déguisement. Mais de là à traiter de raciste un mec qui bosse avec des noirs, des arabes, des blancs chaque jour, il y a un monde. L'équipe de France, il manque plus qu'un chinois plus Benoît Hamon qui crie « Vive l'arc-en-ciel de la diversité !» et c'est une pub Benetton en plus sociale.
Donc il est clair, Antoine Griezmann n'est pas raciste.
Non, mais on n'a plus droit à l'erreur, Nagui. La première couillonnerie, les twittos et la société vous flinguent. Moi, pour éviter de déraper, je donne aucune interview. Enfin, pour ça et aussi parce que personne ne m'en demande. Tex, l'animateur des amours sur France 2. Jeu dans lequel des dames viennent expliquer que leur mari ronfle et a des ballonnements, mais repart quand même avec. Un mystère. Pareil, il sort une blague à la télé sur les violences conjugales. Pile en même temps que la prise de conscience mondiale de cette tragédie. Donc niveau timing, ça peut pas être pire. Tex, à la sortie d'un camp de réfugiés, il vous ferait un sketch sur la malnutrition. Il prévient avant, c'est-à-dire qu'il se dit, je sais que c'est peut-être pas le moment pour la faire celle-là, hein, mais il y va quand même. Il se met dans la position de Patrick Swayze à la fin de Point Break, quand il y a une vague de 27 mètres de haut qui déboule et qui se lance dedans avec sa planche en mousse. Bref, blague difficile, je vais même pas la refaire, mais là, direct, France 2 désactive son badge, viré, fini, alors qu'il présentait le truc depuis 18 ans et qui s'est excusé. Donc on aurait pu juste le punir, hein, l'obliger à se lever tous les dimanches pour regarder Thé ou Café. Mais non, un faux pas et c'est ciao bello. Une vanne sur la violence conjugale, on prend plus rapidement que ceux qui l'exercent. Alors à noter que Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, a elle-même signalé au CSA la séquence avec Tex. Hein, c'est-à-dire que maintenant c'est directement le gouvernement qui a la zapette. Hein, moi j'ai appelé Matignon pour dire Nagui il est nickel, hein, pas un dérapage, gardez-le sur la 2 parce que s'il a que que la radio, on va devoir déjeuner avec lui tous les midis. Hein, là, 12h34 secondes, il se taille en courant pour ses tournages télé. Morin sort sa pipe à bœuf et on est bien entre des classés sociaux. Bref, ça devient compliqué de dire ou faire quoi que ce soit, à part les humoristes d'Europe 1 qui sont peinards puisque personne n'écoute. Tex, hier, disait que la 2 continue de passer les amours avec lui à la présentation. Ouais. Hein, il diffuse des images de celui qu'ils ont viré parce qu'il réprouvait son discours. C'est une chaîne SM. Ils adorent se faire du mal. Alors jamais je n'aurais pensé dire ça un jour, mais je suis Tex. Donc justement, connaissez-vous la différence entre un rhum et...
Non.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Quand je pense à vous, Alex Lutz, j'entends notamment ceci.
Je peux plus me passer de mon micro. Sur scène, c'est extraordinaire. Même si je parle comme ça, vous comprenez? Et alors, si je parle comme ça, je vous colle au siège, j'adore. Et depuis peu, j'utilise ce concept dans ma vie de tous les jours. Je me fais sonoriser au quotidien. Ça a radicalement changé ma vie.
C'est Sylvie Joly, que vous mettez en scène dans La cerise sur le gâteau, c'était en 2005. Et justement, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure à propos de mise en scène. Quand on regarde votre parcours, c'est assez impressionnant. Sylvie Joly, Pierre Palmade, Audrey Lamy.
Qui a écrit ce sketch d'ailleurs, qui est définitivement un génie. Et qui est sur scène en ce moment. Et,
au Théâtre du Rond-Point.
Qui a un spectacle magnifique. Je sais qu'il est magnifique. Donc voilà.
Et oui, c'est Audrey Lamy, Palma de la Roque, Caroline Loeb, on l'a évoqué. C'est quand même assez rare les humoristes qui bossent autant pour d'autres. Est-ce que c'est une façon d'enrichir aussi votre pratique?
Mais en fait, c'était oui, je crois. Enfin, ça me permet de tout le temps apprendre aussi. Ouais. Et c'était mon premier métier avec le théâtre, vu que j'étais quand même un acteur longuement mal dégrossi. La mise en scène est assez, c'est quand même une alternative géniale. C'est-à-dire que j'avais ma compagnie, j'étais très jeune et je montais mes projets et donc j'adorais travailler avec des gens et des acteurs.
Mais vous auriez pu cesser de le faire puisque vos propres projets présent d'acteurs, on a parlé du cinéma, de Catherine et Liliane.
Vraiment, j'y prends un plaisir identique, vraiment. C'est il y a des choses où vous pouvez pas le Françoise Barsagan, je peux pas le faire quoi, c'est parfait, c'est cousu sur elle, c'est
pour Caroline Loeb.
Pour Caroline Loeb, voilà, c'est
mais
c'est,
quand vous avez une bonne
quand y a une actrice
quand
ou
vous
un
avez
acteur,
une idée d'une entrée en scène.
Oui, j'allais dire ça, est-ce qu'on n'a pas peur de se vider parce voilà. qu'on donne ses bonnes idées aux autres, ce qui est logique quand on travaille en collaboration et on se dit pas tiens ça je me le serais bien gardé.
Non, je crois pas que c'est une espèce de bouteille
parce qu'on a pas beaucoup de bonnes idées, c'est surtout ça. Non
mais vous croyez oh là là, alors évidemment sur le deuxième, j'y pense, puisque je dois le pondre. Donc, et que j'ai pondu des trucs et que j'ai pas fini d'en pondre. Donc, à chaque fois, je me dis, oh bah merde, ça c'était super. Mais, non.
Mais ça alimente en revanche votre pratique à
oui,
vous en tant que comédien.
Oui, ça alimente, ça crée. Ça...
Qui vous met en scène, vous?
Tom Dingler, mon meilleur pote.
D'accord.
Avec qui vous travaillez déjà aussi sur
Catherine et Liliane.
Sur Catherine et Liliane, qui était dans Le Talent de mes amis.
Exact.
Vous nous aviez accueillis dans ce film.
Et c'est facile de vous mettre en scène? Est-ce que Tom Dingler...
Je sais pas, non, je crois pas.
Ah.
Non, je crois pas. Je crois que je suis plutôt... Non, je suis pas...
C'est justement
facile.
Quand on a l'habitude de diriger, tout d'un coup, se retrouver dans l'autre position.
Il faut avoir quelqu'un qui... en tout cas, en humour, on peut pas avoir un escroc, quoi. Il faut
ça
quelqu'un qui soit honnête, parce que, comme je vous disais, c'est assez binaire, l'humour. C'est assez...
Ça passe ou ça passe pas?
Ça passe pas. C'est très particulier, quoi. Vous pouvez pas... C'est pas tout à fait les mêmes ressorts de mise en scène que quand vous allez monter un Tchekhov ou quelque chose.
Quelle a été sa réaction quand vous lui avez dit il y aura un cheval?
Tom, oh, il est prêt à me suivre à chaque fois sur mes.
Il a pas discuté.
Non, ils ont fait des gros yeux tous. La prod était un peu plus surprise.
Quoi qu'ils ont l'habitude des chevaux, mais.
Bah oui.
Puisque le producteur d'Alex, c'est Jean-Marc Dumontet qui produit aussi Nicolas Canteloup.
Voilà.
Mais il y a un cheval sur Nicolas Canteloup.
Non, mais une grosse passion. Il y a une thématique dans la production.
La passion du cheval, pardon.
Jean-Marc n'a pas du tout la passion du cheval, donc il est poursuivi, le pauvre.
Il y a un truc.
Je pense qu'il y a quelque chose et qu'il faut qu'il creuse.
Ironie.
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Qui veut du lol? Qui veut du rire? Attendez, je recherche. Ah bah si, tenez. Guillermo Guise, c'est ce que je vous propose.
Bonjour les amis.
Non.
Salut.
Quoi?
Allez,
ça va.
Ouais,
ça va comme tout le monde. Vous savez, j'ai vu l'interview d'Emmanuel Macron par Laurent Delahousse dimanche soir. Et forcément...
en cette période de grippe, je me suis demandé, est-ce qu'ils se sont fait la bise? Alors, si oui, combien de bises? 2 bises? 4 bises? Est-ce qu'ils se sont fait un check? Est-ce qu'ils ont leur check? C'est vrai, est-ce qu'ils font un check comme les jeunes, pom-pom, ou alors pom-point, comme les jeunes aussi, comme, est-ce qu'ils te frottent le front, comme les jeunes? Les Français veulent savoir. Alors, les Françaises aussi. Les Belges s'en foutent, par contre, et ça tombe bien, parce que, moi, le sujet Macron, vous savez, je m'en branle avec une moufle et une trappe à Pecorino. En revanche,
Pecorino.
Une râpe à Pecorino, en effet. Oui. En revanche, plus essentiel est la question de la bise.
Mal.
En effet, mais ça a un certain plaisir. Question soulevée, la question de la bise. Question soulevée ce week-end par la maire de Morette, une petite commune de l'Isère, qui a avoué que faire la bise systématiquement à 73 de ses collègues conseillers, ça lui donne envie de crever dans une supérette. Bon, elle a même expliqué qu'elle arrivait parfois exprès en retard au conseil communautaire pour éviter d'avoir à chipoter l'ADN de ses collègues. Si vous imaginez, je suis un peu en retard, je vous fais pas la bise. Pas de problème, madame le maire. Par contre, on vient de voter, on va raser votre commune, ça devient multiplex. Ah, rien à battre, au moins, je dois pas me taper vos miasmes. Allez, ciao les partouzeurs. En gros, ce qu'elle avance, c'est que chacun doit pouvoir être libre de faire la bise ou pas sur le lieu de travail, finalement. Et le problème, c'est que quand t'as pas envie de faire la bise à quelqu'un, c'est difficile de le verbaliser clairement. Si tu dis non, arrête-toi là, je te trouve dégueulasse. Vraiment, vraiment. Il fait 37 degrés, ta peau, c'est plus une peau, c'est un cheeseburger. Vraiment, si tu veux me dire bonjour, tentons la télépathie, Lionel. Vraiment, socialement, tu t'ostracises, quoi, pour ton pot de départ. T'as toutes les chances de recevoir un pins, le roi Merlin et l'intégrale des faces B de la compagnie créole. Alors, pour éviter dilemme de salut, intimité forcée des joues et autres situations embarrassantes entre collègues, une option, le télétravail. Évidemment. Et sa version plus ambitieuse, le chômage. Autre technique, le rhume permanent. Et sa version plus ambitieuse, la lèpre. Fini les bises hypocrites et les poignées de main moites, etc. Un petit salut amical de la tête. Ça va, Agnès, t'as vu le dernier Star Wars? Voilà, fin de l'histoire. Tout le monde est content. Alors, parce que c'est une convention sociale assez floue, quand même, dans notre civilisation, la manière de saluer les gens que tu connais peu, finalement. Mm. D'autant que c'est très variable en fonction des microcultures. Regardez Léla, par exemple. La première fois que je l'ai rencontrée inter, elle m'a fait 2 bises.
C'est vrai,
je lui dis, ah, c'est marrant, Léla, chez nous, en Belgique, c'est 38. et après, faut boire un gin tonic ensemble, etc. Enlever tous les éléments textiles de nos corps et compter jusqu'à 3 orgasmes. Et ben, voilà, ça n'a pas pris. Hein, ce qui prouve quand même, par parenthèse, qu'on confie le JT de service public à des gens qui n'ont aucun respect pour la culture d'autrui. C'est plus facile avec Daniel Morin, naturellement. Avec Daniel Morin, les choses sont claires. Distance de sécurité. 2 crocodiles, au moins. J'ai rien contre les odeurs âcres, évidemment. J'ai eu 2 brebis. Mais quand t'es pas obligé, je dis toujours faire confiance à l'OMS, principe de précaution. Alors, évidemment, entre collègues, c'est une chose. Le vrai problème, c'est dans les rapports hiérarchiques, naturellement. Je me rappelle un jour, histoire vraie, avoir croisé dans les couloirs Laurence Bloch, la patronne de France Inter. Je la connaissais pas et tout, je savais pas quoi faire. Du coup, dans le doute, je lui claque les 2 bises, comme ça, voilà. Putain, son regard. J'avais l'impression de lui avoir dit « Ça va ma couille ?» Alors t'en es où avec ta radio de Vioc? Immédiatement j'ai regretté directement. Dans ses yeux il y avait écrit « Alors Guillermo, cette dernière année sur France Inter, vous le sentez comment ?» Quelle attitude adopter avec sa hiérarchie? Vraie question par rapport à la bise. Pour ça je dois dire qu'avec Nagui dès le départ tu sais à quoi t'en tenir. Nagui pour le saluer c'est 30 euros, un baise-main et un petit mot sur la famille. C'est quand même plus simple évidemment. Il n'y a pas d'ambiguïté au moins pour ma dernière année sur France Inter. Sur ce je vous salue pas, mais contractuellement je vous souhaite une bonne émission.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, ça continue, et cette fois, qui dit meilleur, dit « Eh, moi ». Jamais !
Quoi ?
Jamais on avait vu ça sous la Ve République.
Quoi encore ?
Après l'euphorie de la traversée dans la cour du Louvre, cour qu'il traversa magistrale, d'un pas léger mais puissant à la fois, il avait le regard fier, un peu humide, mais tellement heureux et convaincu qu'il allait tout droit vers un destin impérial. La foule rassemblée attendait son guide qui vient enfin se caler de façon hyper chanceuse, pile poil devant la pyramide. Ah, il était beau, la France était à ses pieds. Oui, mais le temps passe et les soucis apparaissent. La cote de popularité est mise à mal. L'amour du peuple s'étiole. Et quand la baisse commence, c'est inéluctable pour un président de la Ve. Elle ne remonte jamais. Des apnées infinies, sans espoir de remonter à la surface. Une impression de plancton dans le maillot qui vous colle au fond des abysses. Une longue et lancinante descente aux enfers de l'impopularité. Rappelez-vous le dernier martyr en date, Saint Hollande, qui finit à 19% de Français satisfaits de sa politique. Il a terminé son quinquennat... Le pas lourd, avec comme seul objectif la défaite, la débandade, la mimole. Oh. Et il prenait cette direction, notre Manu adoré. Oui, comme les copains, comme pour les copains, la pente était là, lente, lente, mais continue. Et puis, sans aucune explication rationnelle, il y a 2 mois, un frémissement. La chute est endiguée, les chiffres ne baissent plus. Mieux que ça, petit à petit. Il remonte encore. Mon Dieu, oh mais c'est un miracle. Comment cela se fait-il? S'étonnent tous les spécialistes de la politique de proximité. Et puis, ah, décembre arrive. Décembre, un mois, mi-figue, mi-raisin. On est heureux parce que les fêtes arrivent, mais on est fatigué, épuisé, laminé par ce trimestre qui n'en finit pas. Quelle orientation va prendre cette salope de courbe capricieuse? Hein, capricieuse comme une danseuse de flamenco. Les chiffres tombent là.
du jamais vu. Oh, en un mois, plus 9%. 54% des Français le considèrent comme un bon président. Manu est de retour. Jupiter is fucking back. Ça va yèche dans le ventilo. Et attention, le mois n'est pas terminé à ce rythme-là pour Noël. Il va être désigné personnalité préférée des Français. 80% de satisfaction chez la ménagère de moins de 50 ans. Les gosses vont demander des poupées Macron. Il va souhaiter les vœux de bonne santé mode Scarface en direct de son jacuzzi en marbre en train de fumer le cigare pendant que Brigitte lui gratouille la tête habillée en James Bond girl. Au prochain G7, il va prendre Poutine et Trump par les épaules en leur disant « C'est à mes couilles !» Ah, il va rouler une quiche Angela Merkel en lui bavant dans l'oreille. « Ich liebe dich, meine kleine saucisse, elle va tomber dans les Apfel, Mami Panzer !» N'enterrez jamais un Macron qui dort. Rien ne peut arrêter Manu Le Faux.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Le meilleur de la BO, c'est terminé pour aujourd'hui. Une bande originale réalisée par Marie-Annick Rimbaud. On se retrouve demain, même endroit, même punition, même heure. Enfin, j'espère. Hope, c'est Gaëtan Roussel. Oh
Tu renverses les moments, inverses les choses. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Place des autres, tu dis pourquoi sans même dire un mot. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Pourtant de tout, mais à la fin de plus rien du tout. Tu te rappelais pourtant de nous, mais à la fin de plus rien. De nous tu te rappelais de tout, mais à la fin de plus rien du tout. Tu te rappelais pourtant de nous.